Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Alors si vous avez raté le train en route, sachez que cette émission commence donc à 9h, que nous avons évoqué le 15 de France de cette défaite cruelle à Twickenham d'un point hier. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast, mais on reparlera de notre équipe de France à 11h sur les individualités après cette faillite en Angleterre et la défaite des cadres ou de Fabien Galthié. Toujours avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, David Douillet, Fred Weiss dans quelques instants. Le bras de fer des GG avec un Mbappé encore buteur dans le derby madrilène sur fond de prise de pouvoir au Real. Vinicius qui est petit à petit poussé vers la sortie. Est-ce incompréhensible? Ce sera notre question. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai vu, le coup de gueule du patron du ski français Frédéric Perrin lors des mondiaux qui se disputent actuellement en Autriche. Le ski français est-il en crise? Ce sera la punchline des GG à 10h30 et on retrouvera nos envoyés spéciaux là-bas en Autriche. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec nos GG, avec ce proverbe espagnol, évidemment c'est une circonstance, qui dit, écoutez-moi bien, si tu veux le chien, accepte les puces.
RMC, le bras de fer GG.
Comment faire un choix difficile?
Mais qu'est-ce qu'il est bon ce Vinicius? Qu'est-ce qu'il est bon?
On doit aller à gauche ou aller à droite?
C'est le but de Vinicius Junior qui rentre intérieur, ouvre son pied, c'est magnifique. Manu.
Et pourtant, on ne sait pas où aller. Notre cœur nous dit d'aller dans une direction et notre tête nous dit d'aller dans une autre direction.
Kylian Mbappé, le voilà, le but libérateur pour Kylian Mbappé.
Tengo muy buena relación con Vini, un grande jugador.
Qui vous allez éliminer?
Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix.
D'accord.
Le but, finalement, c'est Vinicius qui va terminer pour égaliser.
Mais mon choix est fait.
Ah, donc vous avez choisi?
Oui. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix.
Je suis comme ça, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie de montrer que je suis meilleur que l'autre.
Ah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix.
Ah bah, alors, ma décision est prise, d'accord. Je l'ai même noté sur ce papier.
D'accord.
Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix.
Je ne sais pas.
Bonjour Marc Cohen, dans la flamme, magnifique. C'est en train de devenir son équipe. Hier soir, le Real Madrid s'en est encore remis à Kylian Mbappé dans le derby madrilène. Score final 1-1, un point qui permet au Real de conserver la tête de la Liga. La Maison Blanche qui veut faire de l'international français, on l'a appris cette semaine, la tête de gondole du projet la saison prochaine au détriment de Vinicius. Le Brésilien n'est plus en odeur de sainteté alors qu'il était il y a encore quelques mois. La star de cette équipe, brouille dans le vestiaire, comportement agaçant, offre colossale de l'Arabie Saoudite. Le vent a tourné visiblement désormais. Mbappé numéro 1, Vinicius vers la sortie. Est-ce incompréhensible? Dans le coin gauche, la team non, représentée ce matin par Pascal Duprat et Christophe Cessieux. Dans le coin droit, la team oui, David Douillet. Fred Weiss, c'est donc un 2 contre 2 et c'est assez serré. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Nous sommes à 60-40. 60-40, oui, c'est incompréhensible. Pascal et Christophe, vous allez débuter dans quelques instants. Mais avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Madrid, Edgar Grollo. Bonjour Edgar.
Salut les GG, salut à toutes et à tous.
C'est vrai que petit à petit, le Real est en train de lâcher Vinicius.
En tout cas, il est plus aussi indiscutable qu'il y a quelques mois. En début de saison, le Real clamait haut et fort. Souvenez-vous qu'il était le meilleur joueur du monde. Mais aujourd'hui, l'avenir de Vinicius est en question. S'il décide de partir, le Real Madrid ne le retiendra pas. L'Arabie Saoudite lui propose 1 milliard d'euros de salaire sur 5 ans. Vinicius réfléchit. Il aurait même refusé une première offre de prolongation venant du Real. Alors, comment expliquer ce changement de statut ici à Madrid? Par son rendement offensif, Vinicius, ses 4 buts sur ses 14 dernières rencontres. Par son manque d'implication défensive, Modric l'a recadré publiquement en plein match cette semaine. Et puis par son attitude, ses cartons à répétition, il a raté 3 matchs pour suspension en janvier, au point où une partie de la presse espagnole le voit comme un problème pour le Real. Ça paraissait inimaginable il y a encore quelques mois, tu le disais. Associé à ça, la bonne forme de Kylian Mbappé, 9 buts sur les 8 derniers matchs et une nouvelle attitude de leader, ça vous donne une équipe de Madrid au visage bien différent qu'en début de saison. Pour beaucoup, ici en Espagne, ce n'est plus l'équipe de Vinicius, mais l'équipe de Kylian Mbappé.
Merci beaucoup Edgar Grollo, tu restes avec nous pour ce débat. On va avoir besoin de toi, toi notre correspondant à Madrid. Est-ce incompréhensible? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Vous venez évidemment participer à notre débat. Christophe, pourquoi toi tu dis que c'est...
Que c'est compréhensible? Parce que, est-ce qu'il y a encore des choses dans le football qui vous apparaissent incompréhensibles dans le système du football? Non, il y a plus rien qui est incompréhensible. Et moi, ça m'étonne pas que on se débarrasse de quelqu'un qu'on a aimé la semaine dernière et qu'on adorait et qu'on s'en débarrasse la semaine d'après. Il y a une espèce de, c'est pas le même espace-temps dans le football. L'impression que les choses vont beaucoup plus vite qu'ailleurs, quoi. C'est-à-dire un mec tu l'adores, papa. Une semaine après, tu le dégages et t'en prends un autre. Et tu vois, c'est un éternel recommencement. Et là, le jouet Vinicius a fini de faire plaisir aux dirigeants du Real et aux supporters. Donc, ils veulent un autre. Ils ont trouvé Mbappé. Et puis, si Mbappé, dans 6 mois, ne plaît pas, bah, ils en trouveront un autre. Et on fait comme au basket, évidemment. C'est-à-dire que l'humain n'a rien à voir. Un matin, t'es une star, tu restes. T'as un salaire de milliardaire. Le lendemain, tu plais plus à ton dirigeant, ben tu dégages.
Et t'es
toujours milliardaire, évidemment, parce que c'est des sports où le salaire moyen, c'est 1 milliard à peu près. On a bien compris. Donc voilà. Le foot, c'est un peu pareil, même si c'est un peu plus insidieux. C'est-à-dire qu'on te vire pas tout de suite, on te tourne autour en te disant oh là là, ça va être un peu plus compliqué pour ton augmentation de salaire, parce qu'il a demandé à être augmenté, Vinicius. On lui a dit oh là là, c'est un peu trop. On est un peu dans le dur en ce moment, financièrement parlant, donc non, ça ira pas, on pourra pas te filer ça. Et puis on commence à balancer, il y a des papiers qui fleurissent un peu à droite à gauche, on est en train de lui savonner la planche tranquillement pour le faire partir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et je pense
parce que aujourd'hui il y a Saint-Kylian qui est arrivé, et Saint-Kylian on le sait, on l'a vu avec le PSG, n'aime pas trop qu'il y ait d'autres joueurs à ses côtés qui lui fassent de l'ombre. Il a fait dégager Messi, il a fait dégager Neymar, et ben il va faire dégager s'il n'en est pas rentré quand même.
Dans la situation, c'est pas possible.
Pascal va répondre. Non.
Bah en fait, tu vois, pourtant on est dans le même camp avec Christophe, mais mes arguments, c'est vraiment pas ceux de Christophe. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est incompréhensible pour moi, pardon Jean-Christophe, pardon Kylian, c'est votre sujet. Parce que je suis pas certain que ça soit la réalité. C'est-à-dire, je suis pas certain que le Real ait envie que Vinicius s'en aille. J'en veux pour preuve que, en ce moment, ils sont en train de discuter d'une renégociation de contrat. Que le Real Madrid intègre le fait que les Saoudiens veulent mettre 300 briques pour acheter Vinicius, ça doit les interpeller parce que c'est pas des philanthropes, c'est du football et il y a une somme conséquente qui pourrait leur être allouée. Que Vinicius pense à partir en Arabie Saoudite à 24 ans, j'ose même pas l'imaginer, pour tout l'or du monde, parce qu'il en a déjà beaucoup de l'or au Real. Et là je te rejoins Christophe, le football, quand t'es une star, tu gagnes beaucoup d'argent et c'est presque normal. J'ai presque envie de vous dire, puisque c'est le sport numéro un. Dire qu'il y a un antagonisme entre Mbappé et Vinicius, je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est des constructions, des fantasmes qui font vendre du papier, si vous voulez. Non, il y a simplement un truc. Je pense que Vinicius, il a les nerfs à vif, parce qu'il s'est fait allumer dans les tribunes souvent, et il a le tort de répondre. Il est toujours en train d'haranguer la foule. Il devrait, à ce niveau-là, à mon humble avis, se calmer. Deux, le problème de Vinicius, c'est qu'il a du mal à digérer le fait qu'on lui ait pas filé le ballon d'or. Et trois, eh bien, un attaquant dans le football, fût-il un formidable joueur, il est sujet à des sautes de forme. Et en ce moment, Vinicius, il est un tout petit peu moins en forme.
Et voilà, justement, c'est pas le moment de plus le pousser. Alors, parce qu'il a été poussé pour le ballon d'or. Parce que rappelez-vous que le Real Madrid était derrière lui à fond, à 200%.
Mais ce que je veux dire, c'est que le Real Madrid, qui est dans ses standards, quoi qu'on en dise, en tête de son championnat, toujours qualifié en Champions League, aura besoin de Mbappé en grande forme et de Vinicius. Et vous savez, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que ces deux joueurs-là, ils ont du talent. Et le talent, on ne le perd jamais. Il va revenir et le Real va encore une fois démontrer que c'est un grand club.
Mais tu nous interpellais justement sur la construction journalistique autour de Vinicius et tu comprenais pas forcément le sujet. Je vais m'appuyer et je vais aller voir Edgar Grollo, notre correspondant à Madrid, juste pour bien comprendre si des papiers fleurissent qui ont d'ailleurs pu nous étonner, hein, si ces papiers fleurissent, est-ce qu'ils ont été alimentés justement par les dirigeants du Real, comme le disait Christophe, pour peut-être se faire à l'idée que Vinicius n'est plus aussi indispensable.
En tout cas, Marca, AS, les journaux madridiens sont très proches de la direction, évidemment. Et parfois, c'est pas un hasard quand les choses sortent presse. Après, on va pas faire du complotisme, mais c'est vrai qu'il y a une tribune d'un journaliste très influent de Radio Marca où il dit « C'est officiel, maintenant, Vinicius est un problème pour Madrid. » Il n'était pas obligé de le faire. Et c'est ça aussi qui a lancé aussi tout ça, même si, évidemment, toutes les critiques autour de Vinicius sont de plus en plus importantes depuis quelques semaines. Après, c'est sûr que niveau timing pour le Real Madrid, cet été, faut soit prolonger Vinicius, soit le vendre, parce qu'il est en fin de contrat en 2027. Il a 24 ans. Ils peuvent potentiellement se faire. On parle peut-être d'un transfert à 300 millions hein, en Arabie Saoudite pour eux. Donc, c'est sûr que le timing pousse à dire soit ils vont le prolonger, soit ils vont le vendre. Et donc, peut-être qu'ils essayent d'activer aussi les différentes pistes en ce moment.
Ok, Fred Weiss.
Moi, ce qui me choque par rapport à ça, alors effectivement, dans le foot, c'est compliqué de trouver des choses qui nous choquent encore un petit peu. Mais moi, ce qui me choque, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que Vinicius a été appuyé, encouragé. J'ai même pas les termes pour qu'il soit Ballon d'Or. Tout le monde était derrière lui.
Il y a eu une belle campagne.
Il y a eu une campagne extraordinaire du côté du Real Madrid, et d'un seul coup, ben on voudrait l'abandonner. Alors que Mbappé soit passé devant, moi, ça me choque pas. Effectivement, c'est des effets de forme quand t'es un attaquant. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et au contraire, c'est plutôt sain comme chose. Mais que celui qui t'a fait gagner des titres, que d'un seul coup t'en veuilles plus, que tu balances cette campagne d'affou, parce que pour bien connaître l'Espagne, tu sais comment ça se passe. Oui, effectivement, ils sont directement en lien avec le club et tout ce qui sort dans la presse, et surtout la presse de Madrid, bah c'est le club qui donne ces informations. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire cette campagne pour dire que Vinicius n'est plus important, n'est plus intéressant pour ce club. Alors pour quelle raison? Il y a deux raisons possibles, hein. La première, pour négocier à la baisse. La deuxième, pour essayer de le vendre. Mais en tous les cas, c'est une campagne pour démolir un petit peu le joueur. Donc je vois pas en quoi et comment ça peut être compréhensible qu'un joueur de ce niveau, cette stature, qui t'a fait gagner des titres, qui a été ton leader, d'un seul coup devienne persona non grata. Je suis allé, j'achète pas.
Vous le savez, David Douillet, qui est avec nous, est un homme de chiffres. Alors je vais te donner quelques chiffres, David, et je vais te donner la parole, parce que donc on a appris il y a quelques jours que, selon les informations du quotidien AS, un club saoudien souhaiterait transmettre une offre de quelque 300 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius Junior lors de ce mercato estival qui va bientôt arriver. 300 millions d'euros, c'est évidemment le transfert, ce serait le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Il y a eu 222 millions d'euros
une année normale pour David
Neymar transfuge de Barcelone pour le Paris Saint-Germain, avec un contrat annuel de 200 millions d'euros sur 5 ans, donc pour un total d'un milliard d'euros pour Vinicius Junior. David?
Oui, bah,
Il passerait senior, d'ailleurs.
Il passerait effectivement senior à cette occasion.
Senior. Oui, je suis un homme de chiffres, mais je suis un homme de lettres aussi, parce que pour rejoindre un peu Christophe, je dirais plutôt que quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Et j'ai le fort sentiment qu'il s'agit de ça. Et que, effectivement, tu as raison, j'y sais, les madrilènes ont un raisonnement comptable des choses. Je suis désolé, je peux pas être d'accord avec toi sur le côté sportif. Je pense que les chiffres l'emportent. Voilà. L'analyse de Christophe. Et c'est pour ça que c'est incompréhensible, parce que je trouve que le sport, c'est le sport numéro un. Tu l'as dit. C'est vrai, mais très vite dans ce sport, tout s'envole, tout éclate, tout se
vole. Le vent tourne extrêmement rapidement, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais c'est terrible, et on voit des drames absolus personnels, etc., de gens qui se font sabrer, des arrêts de carrière, etc. Et là, rendez compte du choix qu'a ce garçon. Enfin, c'est un choix de milliardaire, hein, vous allez me dire, mais à 24 ans, parti en Arabie Saoudite, je veux dire, il a le choix entre flinguer sa carrière, enfin, excusez-moi, mais mettre un stop par rapport à la progression de sa carrière, et de rester au Real. Et le Real a envie de le pousser parce que il coûte très cher, ils savent qu'ils vont pas pouvoir se mettre sur les rangs de l'Arabie Saoudite, et de toute façon, ils ont Mbappé. Enfin, voilà, c'est extrêmement brutal, c'est froid, j'aime pas ça. Sûr, j'aime, c'est, on est c'est, bien loin du sport.
Ce sujet est tendancieux, comme beaucoup de sujets. Je suis pas d'accord avec vous. Si vous voulez, on se fait un petit pari ensemble. Et il va re-signer au Real. Tout simplement.
Bah alors
en fait, on fait des caisses. Est-ce que c'est avéré? Moi, le jour où le journaliste, n'importe quel journaliste, me dit que Pérez, le président, lui a dit qu'il voulait faire partir Vinicius, alors je le crois. Quand il me dit non, c'est mes réseaux, mais je dois protéger mes sources.
Mais tu sais bien
non,
que ça fonctionne
écoute,
pas comme ça.
Moi, je vais te dire, tu sais que c'est, simplement, c'est... réalistement, il y a une offre de 300 briques pour Vinicius, apparemment, hein, de la Fédé saoudienne. Okay, parce que c'est elle qui gère son championnat. Le Real est obligé de réfléchir. Et néanmoins, ils sont en train de renégocier le contrat de Vinicius. Ils ne renégocieraient pas. Ils sont en train de renégocier. La première offre a été refusée par les agents de Vinicius. Ça veut dire qu'ils tiennent à lui.
Ça veut dire tout simplement. Non, alors on a après, ça non. Ça non.
Attends, laisse-moi ça finir. Ça mais laisse-moi aller c'est au bout fumage. De mon argument. Laisse-moi aller au bout de mon argument.
Vas-y,
on verra ça. Moi, je me souviens aussi, on a fait des débats où on disait pourquoi Mbappé, quel timing, quel mauvais timing, pourquoi Mbappé est parti au Real alors qu'il y a Vinicius qui joue à son poste et qui est le meilleur joueur du monde. Et quatre mois après, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mbappé qui s'est refait la cerise parce qu'il s'est remis au boulot. Et bien Vinicius, il va aussi se remettre au boulot. Parce qu'il n'est il est pas très bien, tout simplement. Il est moins bon. Il n'y a non pas de problème
ça,
entre
on
les
est
deux.
D'accord là-dessus.
Donc, le Real, ils sont conscients, c'est le meilleur
donc
club du monde.
Donc c'est juste un coup de pression, c'est ça?
Mais
juste,
il va re-signer au Real.
Mais
aussi parce que sur le terrain, il s'égare. Si t'as Modric qui le reprend de volée, c'est parce que, comme tu le disais tout à l'heure, David, c'est bien quand il y a des cadres dans une équipe. Et au Real, il y a des cadres. Modric, il l'a repris de volée parce qu'il défendait pas. Comme il reprendra de volée, il n'hésitera pas si Mbappé, il se bouge pas le popotin, tout simplement.
Justement, okay Pascal, juste pour ça, juste répondre là-dessus, parce que je suis pas d'accord avec toi sur, on peut s'entendre sur le débat, est-ce qu'ils veulent vraiment le faire partir, pas faire partir, ok, sauf que ça surgit dans la presse, mais je dis pas que c'est une réalité, ou en tout cas que c'est, il faut prendre ça stricto sensus. Mais, tout de même, quand un joueur, quand le Real fait une proposition de contrat à son joueur star, que c'est refusé une première fois, tu peux pas ne pas me faire croire qu'il y a aussi une raison
mais
politique.
Parce que au Real...
Mais attends, que je termine. Peut-être que la proposition de contrat n'est pas forcément à la hauteur, n'est pas forcément excessivement belle, et que c'est normal qu'il refuse, et que le Real s'attende à ce qu'il refuse, mais pourra dire, attendez, on lui a proposé une prolongation de contrat. Quand c'est ton joueur star, c'est rare qu'il refuse une proposition de contrat si elle est à la hauteur.
Je réponds. Pourquoi le Real est le grand club que l'on sait toujours, à juste titre? Parce qu'ils ont des modèles économiques. Ils ont des modèles économiques et ils n'en dérogent pas. Quand Ronaldo voulait gagner deux fois plus, ils ont dit à Ronaldo, non, tu fais partie des grilles des galactiques, tu toucheras pas plus que n'importe quel autre galactique. Eh bien, il est parti, Ronaldo. Le Real, c'est il n'y a pas plus grand que le club au Real Madrid. Tout simplement,
ils
défendent l'institution.
Il y a Hugo qui nous appelle au 32-16. Salut Hugo.
Salut l'équipe, bonjour à tous.
Bon, incompréhensible.
Bonjour Hugo.
Incompréhensible, et je peux rebondir directement sur ce qu'a dit Pascal à l'instant, c'est que il y aura jamais aucun joueur, il n'y a jamais eu aucun joueur dans l'histoire du Real au-dessus en fait de la Maison Blanche. Quoi qu'il arrive, les sautes d'humeur, les choses comme ça feront qu'à un moment, effectivement, ça pourra jouer en sa défaveur. Mais moi, je dis incompréhensible parce que ça veut dire que on ferme les yeux sur tout ce qu'a fait Vinicius depuis son arrivée en 2018 et notamment encore une fois la saison dernière avec la Ligue des Champions et ses prestations qui, encore une fois, pour accompagner Pascal en termes de jeu pur et en termes de football hein, et de technique, il n'y a pas. Les joueurs qui lui arrivent à la cheville sont très 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 rares dans le monde du foot à l'heure actuelle. Après, ce qui lui fait défaut effectivement Vinicius, et c'est peut-être ce qui fera qu'il quitte la maison, c'est que comportementalement parlant, il est un peu border sur beaucoup de sujets, mais techniquement parlant, c'est l'un des meilleurs footballeurs au monde.
Mais il n'a pas toujours été un peu border? J'ai l'impression qu'on le voit maintenant parce que il n'a pas toujours été un peu défensivement, par exemple. On n'a jamais loué les qualités défensives de Vinicius, par exemple.
Mbappé non plus, et pour l'instant, et pourtant,
oui, c'est ce que je dis.
Mbappé sur un piédestal, mais pour moi, Mbappé, contrairement à Vinicius, il a encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à prouver. Alors que Vinicius, il est déjà vainqueur deux fois de la Ligue des Champions. Et si on a juste à taper les skills sur YouTube de Vinicius pour voir que c'est un très, très grand joueur. Et que voilà.
Et Pascal, est-ce que tu penses que c'est
au piège? Est-ce que parce que s'il a refusé l'offre du Real, c'est parce que le Real sait très bien qu'il a pas forcément le choix. Il a le choix entre la peste et le choléra, le fait de partir en Arabie Saoudite et mettre un coup de sabre à sa carrière, et puis L'autre choix, c'est quoi? C'est simplement rester au Real. Il n'a pas d'autre offre ailleurs, je crois.
Oui, il faut savoir qu'il tape à des salaires à 1,5 million par mois quand même. Hein. Donc c'est la peste. Moi, je veux bien la peste.
Non, mais c'est une façon d'exprimer les choses. Mais tu vois ce que je veux dire?
L'Arabie Saoudite, ils balancent des chiffres qui défient toute concurrence.
Mais
Vinicius, il a 24 ans. Il a 24 ans.
En fait, le Real lui a fait une proposition qu'il n'a pas acceptée parce que justement ils jouent là-dessus. Ils savent qu'il y a que eux et eux.
Voilà. Et ça, c'est pas les copains. Voilà. Ok, on remercie Hugo d'avoir été avec nous et merci beaucoup Edgar Grollo, notre correspondant à Madrid, évidemment, que vous pouvez suivre sur rmcsport.fr pour toutes les dernières informations concernant le Real. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler ou non. En tout cas, du ski français, est-ce qu'il est en crise? Ce sont les mondiaux actuellement et ça va mal pour nos Français. Et vous connaissez évidemment les déboires avec les chutes, notamment d'Alexis Pinturault et Cyprien Sarrazin. On sera avec nos envoyés spéciaux en direct d'Autriche. Et à partir de 11h, évidemment, on reparle du crunch. On a perdu, oui, hier face à l'Angleterre. Les responsabilités, les cadres, Fabien Galthié, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Pascal Duprat, David Douillet, Christophe Cessieux, Fred Weiss. À partir de 11h, nous parlons de nouveau de cette défaite à Twickenham du 15 de France hier dans cette deuxième journée du tournoi des Six Nations. Défaite sur le buzzer. Est-ce la défaite des cadres ou de Fabien Galthié? Nous nous poserons la question et les GG ne sont pas d'accord. Denis Charvet sera d'ailleurs avec nous pour évidemment revenir sur cette cruelle défaite de notre 15 de France. Mais tout de suite, on part à la montagne. Les mondiaux de ski alpin ont débuté depuis quelques jours et l'équipe de France est déjà dans le dur, déjà sous pression après les blessures d'Alexis Pinturault et de Cyprien Sarrazin. Vous le savez, cet hiver, le ski français semble perdu. Les tricolores n'ont pas brillé lors des premières épreuves. Il y a eu le super G homme, la descente femme. Et le patron de l'équipe de France de ski alpin tape du poing sur la table. C'est la punchline des GG, Frédéric Perrin.
RMC, la punchline GG.
Le discours, pourtant, il avait été simple. On n'avait rien à perdre, il fallait se lâcher. Et concrètement, ils n'ont pas du tout réussi à le faire. Déjà, sur des Coupes du Monde, quand on se regarde un petit peu trop, on prend. Mais je crois qu'au Championnat du Monde, on prend trois fois plus. Moi, c'est la seule déception que j'ai, c'est que j'ai pas vu des athlètes qui ont fait en sorte d'essayer. Par contre, je pense qu'on a des athlètes qui ont beaucoup d'expérience. Et j'espère que ça va leur servir de leçon, parce que quand on veut aller chercher des médailles, on peut pas se permettre de faire ce qu'on a fait. Sinon, on n'a rien du tout à la fin. Et on n'est pas là pour avoir rien du tout. Oui, je suis énervé. Je peux pas me contenter de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas possible. À un moment donné, il faut que les vérités soient dites aussi.
Et voilà, les vérités commencent à sortir. Le ski alpin est-il en crise, mes GG? Avant de retrouver nos envoyés spéciaux en Autriche, Christophe Cessieux.
Non.
Ok, c'est un non.
Crise, non.
Pascal Duprat.
Oui. Non.
C'est un oui. David Douillet.
Non.
C'est un non. Fred Weiss.
Non.
C'est un non. Pascal est tout seul dans la bataille, quoique.
Oui. Ouais, moi, je suis pas loin de.
Ouais,
je suis
pas loin de. T'es pas loin de chavirer. Ok.
C'est-à-dire que il faut séparer, je pense, le ski féminin et le ski masculin.
Ah.
Le ski féminin est complètement dans la crise.
Oui.
Le ski masculin est dans une crise provoquée par les blessures de toutes ces stars, quoi.
Ok.
Mais là il s'agit pas de ça. Trois mecs sur le carreau. Le sujet, précisez-le, c'est bien le ski français alpin. En général.
Le ski alpin. Parce que si tu rajoutes tous les skis acrobatiques et tout ça, c'est l'alpin, ouais.
Ok. Et puis sachez que vous avez entendu Frédéric Perrin qui s'occupe des hommes. Ok.
Oui.
Il est énervé par rapport aux performances de ses protégés.
Celui des femmes, je pense qu'on n'entend pas. Il a creusé un trou dans la neige. Il a mis une grosse boule dessus et puis il est en dessous. Il attend que ça passe.
En Autriche, nos envoyés spéciaux à Salbar pour ces mondiaux. Selena Marjac et Bastoun, Sébastien Amier, salut à tous les deux.
Salut JC, salut à tous.
Salut GG.
Salut.
Bon, Bastoun,
on va aussi avoir besoin de toi. On commence avec toi, Léna. C'est vrai que Léna, les médailles là vont être difficiles à aller chercher dans les prochains jours.
Oui, c'est déjà parce que ces mondiaux clairement ne sourient pas à l'équipe de France pour le moment. Après le super G masculin, on l'a entendu, hein, Fred Perrin a clairement poussé un coup de gueule, agacé sur le moment par les résultats des Bleus. Alors il a fallu se remettre la tête un peu à l'endroit. Une discussion a eu lieu entre le staff et les coureurs. Et Nils Allègre, qui est clairement l'une des très grosses déceptions, 17e seulement du super G vendredi, a dû se remobiliser et évacuer la frustration de ce résultat.
C'est important de, oui, que les coachs essaient de mobiliser à fond, mais la solution, elle doit venir de nous. On est tous dans le même bateau, donc c'est sûr qu'on essaie tous de faire du mieux qu'on peut, mais la solution doit venir de nous et la réaction doit venir de nous. On n'est pas favori, donc on n'a pas le choix. Faut faire ce qu'on sait faire. On sait que sur une manche, on peut rivaliser. Mais pour ça, il faut se livrer à 100% et faire une manche pleine. On n'a pas le droit à l'erreur, nous.
Et son coéquipier Nils Alfon, lui, vit ses premiers mondiaux. Abandon sur le Super G vendredi. Et donc, Nils compte se rattraper en descente aujourd'hui.
Il faut que je me concentre sur ce que je sais faire et ce que je fais de bien depuis que je suis arrivé ici. Justement, pas en rajouter, mais oui, être bien dans les intentions, mais pas en rajouter. C'est des courses qu'on n'a pas souvent. C'est tous les deux ans. C'est des courses d'un jour. Il faut pas avoir de regrets. Donc voilà, on va y aller à fond.
Pas de regret, être présent le jour J, c'est vraiment le mot d'ordre hein, depuis le début de la semaine, mais c'est pourtant difficile pour cette équipe de France de s'exprimer alors qu'il n'y a entre guillemets presque aucune pression autour d'eux. Ils sont outsiders, mais il ne faut pas oublier chez les hommes l'absence des leaders. Cyprien Sarrazin et dernièrement Alexis Pinturo coûtent clairement cher. Et alors là, si on parle des femmes, on est vraiment très très loin du compte. Pas d'exploit, pas de surprise pour nos Françaises. Écoutez, Laura Gaucher, Romane Miradoli, 20e et 23e de la descente hier.
J'ai l'impression d'être dans le bon état d'esprit au départ, d'être contente d'être là. Voilà, j'avais pas les jambes coupées comme des fois. Au départ, on est tellement mal qu'on sait que ça va mal se passer. Quoi. Là, c'était pas le cas. Donc, ouais, je suis déçue. Je vais essayer de bien analyser. Mais ouais, c'est hyper frustrant d'être là et de pas en profiter comme j'aurais aimé. Quoi. C'est sûr que je suis pas du tout à la hauteur de mes objectifs et même de mon ski. Quoi. Donc.
Alors la note positive pour le ski français pourrait venir seulement fin de semaine prochaine avec le slalom homme, presque notre seule chance objectivement de médaille avec Clément Noël et Steven Amier.
Et il y aura donc la descente à 11h30 dans moins d'une heure maintenant que l'on va vivre avec vous Léna Marjac et Sébastien Amier. Sébastien Amier, justement, tu peux commencer, est-ce que c'est la crise ?
Bah, on va pas dire c'est tout rose, hein. C'est tendu, c'est vrai que sur un événement comme les championnats du monde, tout de suite la critique peut être de
elle arrive vite, c'est comme aux Jeux Olympiques dès la première semaine, elle arrive, tu fais le bilan avant la fin des compétitions.
C'est ce que j'allais dire, j'ai eu la chance dans ma carrière de faire des Jeux Olympiques, beaucoup de championnats du monde aussi, et effectivement j'ai vécu aussi ces situations-là où forcément quand ça commence mal, et ben derrière il y a une atmosphère qui est lourde à peser et qui est pesante et qui fait que quand tu arrives en joker les dernières courses, c'est pas simple. Aujourd'hui on le sait très bien, comme tu l'as dit Christophe, tu as très bien analysé la chose, on est dans le dur, vraiment dans le très dur chez les filles. Ça, on le sait depuis des années, par un passé lourd, par un réservoir qui est hyper mince. On le voit même à l'international. Hier, il n'y a que 33 filles au départ des championnats du monde. Pour vous dire que ce n'est pas que en France qu'il y a un trou. C'est aussi une génération en vitesse qui est complètement... tous les pays sont délaissés par les athlètes dans cette discipline. Et puis, quand on s'oriente chez les hommes, chez les hommes, tu l'as dit, il y a Clément Noël qui a 4 victoires cette année. Il nous manque Cyprien Sarrazin, il nous manque Pinturo, il nous manque Blaise Guisendanner. C'est aussi... ça laisse des traces aussi dans une équipe. Quand tu as pas de référent à l'entraînement ou sur des courses, forcément ça stimule un petit peu moins. On le voit en slalom hein, aujourd'hui où il y a une petite guéguerre en interne avec Steven, avec Paco Rassa, avec Victor qui revient. Ça met aussi une énergie dans un groupe à l'entraînement, et en course ils arrivent à surpasser. Donc aujourd'hui moi je suis pas inquiet, parce que les médailles, on va faire les médailles qu'on doit faire. On va pas inventer des chiffres qu'on est incapable de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut finir avec 3 médailles, parce qu'on a aussi le combiné alpin qui est en notre faveur. Faut pas oublier que cette nouvelle discipline qui va modifier peut-être la donne, et dans les prochaines années, je l'espère, aussi un intérêt pour le ski, c'est-à-dire 4 descendeurs qui vont faire de la descente le matin à 11h et les 4 slalomeurs qui vont faire le slalom à 13h. On fera un binôme. À chaque athlète aura son, enfin chaque binôme aura son temps cumulé à la fin de la course, qui donnera un classement. Dès mercredi, chez les hommes, ça peut sourire, parce qu'on a une grosse équipe alignée, ouais, avec les 4 descendeurs et les 4 slalomeurs.
Bastoun, je veux bien, ta course à Ribaud, elle est sympa.
Mais les mecs, arrêtez, dans tous les sports, il y a des courses à Ribaud maintenant.
Mais c'est pas là-dessus qu'on juge l'état du ski français, quand même.
Mais bien sûr que ça passe par là, une médaille passe par là.
Mais
dans tous les sports, on rajoute les médailles. Dans tous les sports.
Olympiques, ça, c'est les trucs.
Elle sera olympique.
C'est des trucs inventés, moi, c'est pas là-dessus.
Mais c'est pas des trucs inventés. C'est trucs
pas
qu'on
là-dessus
va rajouter.
Je me base pour dire si un sport alors, va bien ou va pas bien. Moi, ça, c'est du gadget, tu vois, c'est inventé par les uns et les autres pour rajouter des compétitions.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas parler comme ça quand tu as un athlète de haut niveau comme moi, d'ailleurs, déjà, parce que je suis d'accord avec toi. C'est des courses où on essaye de changer un peu le monde du ski. Vous êtes tous les médias sont demandeurs que le format du ski change. Donc quand on essaye d'adapter un format, ouais, vous critiquez.
Mais non,
donc
aujourd'hui,
mais
non,
mais nous on s'adapte à des demandes,
c'est les Français
et qui
brillent en descente, en géant, en slalom, et éventuellement en super G, c'est les disciplines reines, voilà. Et aujourd'hui, on est frustré. Bon, évidemment, il y a eu les blessures des uns et des autres tout au long de l'année, et je pense que la blessure de Cyprien, en plus, ça fait du mal au moral de tous ses copains en descente, parce que quand tu vois un pote comme ça qui passe si proche de la mort, et ben évidemment derrière, quand, avant de te lancer dedans, c'est un peu plus compliqué. Pintu qui essayait de revenir, qui se répète, on ne sait même pas s'il va pouvoir reprendre sa carrière. Là aussi, ça fait mal parce que c'était,
ça plombe le moral,
c'était le leader, c'était le mec qui est entraîné, les mecs derrière lui, même s'il était un peu en marge de l'équipe de France. Heureusement qu'on a ces deux slalomeurs, Clément Noël et Steven, le fils de Bastoun, qui osent tirer la bourre. Mais on n'a plus que ça, quoi. On a aujourd'hui plus que ça. Les filles, c'est le désert absolu. Il n'y a rien. Ça fait 10 ans qu'on nous dit, bah c'est un petit trou de génération, ça va revenir, vous allez voir. Ouais, on ne vrai. Voit rien venir. Anne Masseran, on peut se mettre tout en haut du Mont Blanc, il y a rien qui arrive, il y a rien. Et ça, c'est la cata. Alors donne-moi des noms.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que les raisons sont simples aujourd'hui, et on l'a vécu il y a pas longtemps, hein, avec une suppression de l'État pour le sport en France. Donc aujourd'hui, on n'est pas un pays de sport, ça vous le savez comme moi. Et nous, on est un pays où l'économie du ski est importante. On a une vraie économie du ski, mais par contre, on n'en a rien à foutre du ski alpin, de la Fédération Française de Ski.
Et pourtant, il y en a du blé dans le ski. Il y en a du blé dans le ski. Okay. C'est incroyable que vous n'arriviez pas à récupérer tout ça.
Tu sais combien on joue de millions, nous?
Ouais, non, mais je sais.
La Fédération Française,
elle
a 12 millions.
L'État financier de la Fédé catastrophique, alors que les moniteurs qui aident la Fédération et qui aident.
Et heureusement.
Mais voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est pas l'argent qui fait tout non plus. Moi, okay.
Bastoun, on va distribuer la parole. Juste David voulait intervenir et Pascal aussi. David.
Bastoun, j'ai une question à te poser. C'est David. Moi, il y a un truc qui me gêne. C'est que l'ami Perrin, il a l'air de. En parlant aux médias, hein, en disant on va expliquer les droits dans les yeux, la vérité, etc., etc. Il s'exonère du truc, quoi. Tu vois. Et je pense qu'il a une part de responsabilité. Voilà, sur comment il motive ses troupes, comment il gère ses troupes, et qu'il l'affiche pas. Et je trouve ça un peu, je trouve qu'il lâche ses athlètes en race campagne, et puis démerdez-vous les mecs, quoi. Et puis je vous mets la pression à travers les médias. Je trouve pas ça hyper sain. Et ça, pour moi, c'est une vraie source. Un vrai démarrage, c'est un feu qui couve sur quelque chose qui pourrait être beaucoup plus grave que ce qu'on assiste en ce moment dans les performances.
Rapidement,
ouais, Bastoun. T'as raison un petit peu. Après, on a la chance, c'est qu'il s'est exprimé. Parce que moi, je le connais depuis longtemps et souvent, il ne s'est pas exprimé de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire à chaud? Nous, on l'a à chaud quand il passe devant nous. La course n'est encore pas finie. Donc, il a une réaction aujourd'hui où il pèse ses mots. Mais derrière, il y a une discussion avec le staff, avec les entraîneurs, avec les coureurs, qui a dû percer un petit peu les abcès. Maintenant, c'est pas simple à sa place de tirer une balle comme ça, hein, avec une réaction à chaud. Il sait, lui, qu'il a encore une semaine à vivre intense ici avec le géant, le combiné alpin, la technique qui arrive, le slalom. Donc, il doit aussi être dans un discours de cohésion. Il dit attention, faut qu'on change les choses, faut qu'on essaye de faire changer les choses pour que ça interpelle le monde, mais que ça ne mette pas non plus le feu aux poudres. Donc voilà, c'est pas simple. Moi, je me mets aussi à sa place. Tu peux pas tout bouleverser comme ça sur un interview. Maintenant, comme tu le dis, David,
la fin du truc.
Comme tu le dis,
tu peux que tu règles tes comptes à la fin de la compète et que tu essayes de régler le truc. Okay. Mais pendant le truc.
Ouais, mais pendant le truc, c'est
pas bon.
C'est déjà après une course où on sait que ça aurait pu sourire un petit peu plus. Nick Salek a quand même gagné en Coupe du Monde. Il est déçu et il vide un peu son sac pour un petit cri d'alarme avant la descente.
Pascal Duprat.
Faire prendre confiance à ces gamins que peut-être il y a un coup à jouer en descente.
Pascal.
Ouais, j'espère que Bastoun, je vais pas te mettre en colère, hein. Mais moi, j'ai répondu oui, le ski est en crise. Alors, il y a bien sûr, pour le ski alpin français, homme, ben, bien sûr, il y a les blessures de Sarrazin et de Pinturo, qui font mal à la délégation française parce que c'est les chefs de file. OK? Mais, voilà, en tant que, montagnard et en tant qu'amoureux du ski, moi, ça me,
ça me fait chier, ça me vexe de prendre deux secondes, que ça soit les hommes ou que ce soit les filles, dans les deux super G, on prend deux secondes et plus, on finit 20e, le meilleur classement pour les filles sur 30. Franchement, c'est quand même le ski français qui est représenté. Et en fait, t'as répondu à ma question parce que moi, je suis plein d'interrogations. Quand je vois que l'Autriche et la Suisse, c'est à peine 9 millions d'habitants, c'est les Alpes comme nous, c'est les mêmes, ok? Ouais. Et eux, ils ont 4, 5, 6 athlètes par discipline. Il y en a deux qui se blessent, il y en a deux qui rentrent. Ils sont géniaux tout le temps, ils sont tous omniprésents. Quand je parle, je vois les Italiens par exemple, moi j'ai l'impression que les Italiens, ils sont passés devant nous aussi. Ils sont meilleurs, que ce soit les garçons et les filles. Et ça m'amène à dire que le ski français est un peu au creux de la vague. Voilà, sauf en slalom, où on a deux garçons qui peuvent, à mon avis, me la faire fermer, je l'espère, très vite la semaine prochaine.
Bastoun, très rapidement avec Léna.
T'as absolument raison, et effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on se penche encore une fois sur la politique d'avenir, grossir nos réservoirs depuis les clubs des sports, depuis les comités, jusqu'à la fédération, pour qu'on ait aussi de l'élitisme après. Nous, on fait déjà de l'élitisme à 15 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'un gamin, il sache ce qu'il a envie de faire à 15 ans, ou une gamine? Aujourd'hui, on doit donner ces chances à ces gamins jusqu'à 20, 22 ans. Et après, on fera le tri, et le tri sera fait par rapport aux résultats sportifs, et non pas sur un facteur de décision de nos entraîneurs, de nos dirigeants. Et ça, c'est un vrai problème, et il faudra percer l'abcès, ça c'est sûr.
Bon, Bastoun et Léna, il y a la descente à 11h30. Léna, il y a combien de Français engagés? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose?
Alors on aura 4 Français engagés. Alors oui, on en parlait avec Bastoun ce matin. Évidemment, on le répète, hein, c'est une course d'un jour, et donc il peut se passer des choses. Le premier à s'élancer, ce sera Maxence Musaton, dossard numéro 3 à Courchevel il y a 2 ans. Il avait terminé 6e de la descente. Alors pourquoi pas aujourd'hui? On aura derrière Adrien Théo, le doyen de cette équipe de France, 40 ans, dossard numéro 4. Et celui aussi qu'on attend énormément, on le répète, mais c'est Nils Allègre, dossard 6. Lui a clairement les capacités pour aller faire un gros résultat aujourd'hui sur cette piste de Salbar. Et le dernier qui prendra le départ, c'est Nils Alphand, dossard 22. Donc rendez-vous à 11h30 pour suivre nos 4 Français, et on l'espère avec un bon résultat.
À tout à l'heure, Léna et Sébastien Amier, merci d'avoir été dans les grandes gueules du sport. On se retrouve dans quelques instants, il est 10h48 pour les GG contre-attaque. Qui s'est imposé? Quel débat a fait l'unanimité? Ce sera dans quelques instants, et puis à partir de 11h, nous reparlons de cette défaite du 15 de France en Angleterre hier face à Twickenham, face à l'Angleterre. Est-ce la défaite des cadres ou du sélectionneur? Fabien Galthié, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50, toujours avec David Douillet, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Fred Veil. C'est le 15 de France remis en cause. On en parle de cette défaite en Angleterre dans quelques instants à partir de 11h. Denis Charvet sera avec nous. Restez bien avec nous. On vous attend évidemment, supporters des Bleus, supporters du 15 de France, au 32-16. Est-ce la défaite des cadres ou de Fabien Galthié? Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Avec 4 propositions de débat ce matin, vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Ça a été extrêmement serré entre 2 GG. Malheureusement, pas pour David Douillet, qui nous proposait les sports américains. Est-ce qu'ils peuvent arriver en France? Le cricket, le baseball, le foot US. 12% pour toi, David.
Le cricket, c'est anglais en plus. C'est pas du tout américain, le cricket.
Anglo-saxon, j'avais dit.
Ah, d'accord.
Bon. Anglo-saxon.
C'est pas grave.
Bon, c'est pas grave. 12%.
Ah, la solidarité, il t'enfonce en plus, Christophe.
Ouais, c'est pas grave.
Pas du tout.
Et je crois que c'est la première fois que j'arrive dernier, donc tu vois, ça me dérange pas.
Mais oui, ouais. Bien sûr, ce n'est qu'un jeu. 24%. Et... Oui.
Voilà. Je vais bouder, faites gaffe. Hein.
Mais non, regardez les troisièmes, Fred Veil.
Je vais bouder avec toi, mon.
Et il le prend très bien, Fred. Ouais, les menaces de mort à l'encontre du GM de Dallas après le transfert de Luka Doncic, 24%. Bravo, en tout cas, tu as donné l'information.
Voilà. C'est mieux.
Bravo. 31%, la pépite du vélo français. Il était à 2% de gagner, ouais. Christophe Cessieux.
Je te propose la semaine prochaine, t'inquiète.
Voilà.
Ah, Christophe, pas lâché. Non. Ah, je suis déçu, Christophe, pour toi.
La victoire pour Pascal Duprat, Colomoigny, qui renaît à la Juventus Turin depuis qu'il est arrivé là-bas. Il marque des buts. Pascal, donne-nous ton avis sur sur Colomoy.
En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est l'avis de mes collègues et de mes amis sur ce sujet-là.
Parce qu'en plus, tu nous demandes de bosser, quoi. C'est ça.
Oui, non, oui, c'est important.
Tu nous mets minable, mais et après, tu nous demandes de bosser.
Ce sont les auditeurs qui ont choisi. Ils ont bien fait de choisir ce sujet parce que il est pas sans dénué de sens. En fait, le Paris Saint-Germain, tout le monde disait il y a pas longtemps, à peine un mois, qu'ils auraient peut-être de la peine à se qualifier pour les barrages de la Champions League. Parce que, pour ce qui est du championnat domestique, le Paris Saint-Germain va probablement glaner un nouveau titre. Et le président du Paris Saint-Germain disait nous, cette année, on joue pas à la Champions League. Or, les deux derniers matchs qui ont été livrés, les deux derniers matchs de poule, ont montré un Paris Saint-Germain extrêmement souverain, qui joue en équipe, et chacun d'entre nous, en tout cas moi, je me prends à rêver d'un parcours en Champions League des Parisiens. Mes amis brestois ne m'en voulaient pas, peut-être que ça s'arrêtera, et je vous le souhaite aussi, lors de la confrontation entre Brest et le PSG. Mais toujours est-il que Colomoigny, quand on le prête à la Juve, alors que quoi qu'on en dise, il marque des buts en équipe de France, ok, il a montré à la Juve en l'espace de 3 matchs qu'il est capable de marquer des buts, eh bien on le laisse partir. Et je me dis que ça peut être peut-être, c'est de mon point de vue,
inopportun
de l'avoir laissé partir. Parce que les matchs couperets de Champions League, ils se jouent à peu de choses. Et les buteurs, même si Dembélé, il est en feu, les buteurs, c'est bien d'en avoir plusieurs. Et je pense que Colomoigny, ils auraient dû le garder pour ça.
Mais voilà. Ça me fait penser.
Je vous demande votre avis. Qu'en pensez-vous, voilà, de cette idée que je développe?
Eh ben, je pense qu'on peut aussi s'arrêter sur la question et je réenchéris le débat sur ce qu'a dit Mehdi Benassia cette semaine, le directeur sportif, le directeur du football de l'Olympique de Marseille. Il a dit, à propos des joueurs de l'OM, mais je trouve que ça va très bien avec Colomoigny, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes.
C'était mon point, exactement.
Et peut-être que le contexte, bah, même si tu voulais le garder, peut-être que c'était pas pour lui, Paris. Fred.
C'était exactement mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des gens qui performent, c'est tous des très bons joueurs de foot, il n'y a aucun problème avec ça. Mais parfois, le contexte, l'endroit où tu arrives, la situation, eh ben, ça te convient pas et t'es meilleur quand tu pars. Donc tu peux pas préjuger exactement de ce qui se serait passé avec Colomoigny s'il était resté au PSG. Tu sais que c'est un très bon joueur, mais tu le savais avant déjà. Et il a juste trouvé un contexte plus favorable à son talent et ça se passe beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il aurait été très performant avec le PSG. En tout cas, c'est mon ressenti.
Et tant mieux pour lui, en tout cas, s'il retrouve de la joie. David, sur ce sujet.
Moi, je pense que les contextes, Fred, ça se change très très vite, très rapidement. Et je suis plutôt d'accord avec Pascal. Plus t'as de talent dans ton escarcelle, et plus t'as de chances de réussir. Et le contexte, tu dois le modeler, le provoquer, le mettre en condition pour que ça fonctionne.
C'est une magnifique théorie, David. J'adore. Je m'y achète pas.
Après, c'est des enjeux économiques. Il a coûté 90 millions au Paris Saint-Germain. Luis Enrique n'en veut pas. Il n'a pas vraiment trouvé sa place sur le terrain avec Luis Enrique.
Il
faut l'exploiter et il faut s'ils veulent le revendre au même prix ou pas très loin de ce prix-là. Il y a aussi l'aspect économique. Et c'est vrai que ça marchait pas bien avec le PSG. Alors peut-être qu'il aurait fallu un petit déclic, mais ou qu'ils sentent la confiance de l'entraîneur. Mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'autre débat qu'on faisait sur le foot, tout va très très vite en foot. C'est-à-dire que c'est comme au cinéma. Un film, il a 15 jours pour faire sa place. Si au bout de 15 jours, les entrées n'explosent pas, ben on le dégage. Et en foot, c'est un peu la même chose. Il te faut 15 jours, un mois. Et si tu n'arrives pas à rentrer dans le truc, eh ben, salut.
Bravo en tout cas Pascal pour cette victoire.
Merci.
On a pu disserter un petit peu sur le sort de Colomoigny qui cartonne et évidemment on sera très heureux pour l'équipe de France qu'il joue enfin l'attaquant des Bleus. Il est 10h56, restez bien avec nous. On va reparler évidemment de ce 15 de France et de cette terrible défaite à Twickenham hier d'un point dans les dernières secondes. Est-ce la défaite des cadres ou de Fabien Galthié?
À tout de suite sur RMC. J'en ai marre.
Denis Charvet sera avec nous, pas sur le rugby, Christophe.
Non, je suis désespéré, je suis déprimé.
Ne t'inquiète pas, on va résoudre tous les problèmes.
On va t'en penser, t'inquiète pas.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.